Il est 12h30 sur France Culture. Et le journal est présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Il avait marqué le 7e art, et notamment par ses compositions épiques pour les westerns Spaghetti. Sergio Leone est décédé cette nuit à l'âge de 91 ans. Eux cherchent toujours à orchestrer la fin du quinquennat. Le nouveau couple exécutif Emmanuel Macron-Jean Castex doivent dévoiler dans la journée la composition du nouveau gouvernement. Et puis nous reviendrons sur cette synthèse confidentielle mais révélée hier et dans laquelle la Fédération des pompiers étrille la gestion de l'épidémie par le ministère de la Santé, lequel dénonce des accusations infondées. Son nom restera évidemment à jamais attaché aux épopées chevaleresques réalisées pour son ami et vieux camarade de classe Sergio Leone. Ennio Morricone, l'un des plus célèbres et prolifiques auteurs de musique de film, est donc décédé cette nuit. En 50 ans de carrière, le maestro, à la fois compositeur, producteur, chef d'orchestre, était devenu, grâce à la popularité de ses musiques, l'une des personnalités les plus importantes et influentes du cinéma. D'aucuns diront une légende. Son style unique, reconnaissable entre mille, mélange atypique de mélodies entêtantes et d'arrangements insolites, l'avait en effet hissé au sommet des compositeurs de bandes originales les plus demandées en Italie tout d'abord, mais aussi en Europe, sans oublier bien sûr Hollywood, où il avait d'ailleurs refusé de s'exiler, préférant rester à Rome, sa ville de cœur. Rome, d'où nous appelle Antonino Gallofaro.
Tous les Italiens connaissent le maestro de la musique qui accompagne tous les classiques du cinéma italien et international. Chacun a un souvenir de telle scène ou de telle succession de notes, et donc a été pris par surprise ce matin par la mauvaise nouvelle, d'autant plus qu'elle arrive au milieu d'une crise et d'un été particulier. Du monde de la culture aux politiques et en passant même par le Vatican, tous ont rendu hommage au compositeur primé aux Oscars. L'Académie du cinéma italien l'a remercié pour chaque note, chaque harmonie avec lesquelles il a accompagné la vie de tout le monde. La plus importante institution cinématographique de la péninsule l'a primé pour bien 8 fois. Nombre d'acteurs, actrices et autres personnages du cinéma italien l'ont remercié pour ses mélodies, comme de nombreux cinéphiles qui ont partagé en masse leurs réactions sur les réseaux sociaux. Le président de la République s'en est fait l'écho. Sergio Mattarella regrette que sa disparition nous prive d'un artiste génial, raffiné, populaire et qui a marqué profondément l'histoire musicale de la seconde moitié du XXe siècle.
Alors au total, pas moins d'un demi-millier de partitions sont à mettre au crédit d'Ennio Morricone. L'une de ses compositions les plus mémorables reste sans doute ce lancinant air d'harmonica joué par Charles Bronson dont Il était une fois dans l'Ouest. Mais le maestro refusait cependant d'être réduit à ses compositions pour les westerns dits Spaghetti. Anne Lamotte, bonjour.
Bonjour.
Il avait en réalité excellé dans tous les genres, de la comédie au cinéma érotique, en passant par les films d'horreur, mais aussi policiers.
Bah, difficile, hein, Thomas, de choisir un morceau d'Ennio Morricone. Il aurait écrit, vous l'avez dit, plus de 500 bandes originales de longs métrages en plus de 50 ans de carrière. Infatigable Morricone. Il compose évidemment pour Sergio Leone, mais aussi pour Bertolucci, Pasolini, Terence Malick, Henri Verneuil, Dario Argento, Marco Bellocchio, Pedro Almodovar. Et combien de classiques, du Clan des Siciliens aux professionnels, de Sacco et Vanzetti aux Moissons du Ciel. Ou est-ce que vous entendez derrière moi, par exemple, le thème principal des Incorruptibles, réalisé par Brian De Palma en 1987. Un piano, des cornes, des percussions qui vaudront à l'italien une 3e nomination aux Oscars. Car en 87, Ennio Morricone, trompettiste de formation, est déjà un géant de la musique de film. Il se rêvait compositeur, tout court, appelez-moi Il Maestro. Mais c'est bien grâce au cinéma qu'il explose au tout début des années 60, avec les westerns, vous l'avez dit, plein de poussière, de sueur et de regards en gros plan de Sergio Leone. Enfant dans les années 40 à Rome, ils sont voisins de classe. 20 ans plus tard, ils se retrouvent et deviennent indissociables. Ennio Morricone écrit avant les films de son ami, les musiques diffusées pendant le tournage, un duo incomparable, comme l'explique sur notre antenne Sergio Leone lui-même. Nous sommes en 1989 au micro de Noël Simsolo.
Bah, tu sais, ça c'est plus qu'un couple, c'est comme une sorte de mariage involontaire. Nous se connaissons depuis longtemps. Moi, j'ai fait, je suis pas issu, j'aime pas du tout me répéter, m'expliquer les choses plusieurs fois. Avec Ennio, ça vient tout facile, parce que ça suffit un regard, et nous se comprenons tout de suite. Avec moi, il y a une méthode qui, vis-à-vis à les succès que nous avons eu ensemble et à l'estimation que nous avons une pour l'autre, il fait qu'est-ce que je veux. Ça veut dire, il est capable de réécrire un morceau de musique 4 fois, 5 fois, si je l'aime pas du tout. Et alors, c'est pas facile de trouver ça aujourd'hui dans une autre musicienne. Et en plus, il y a maintenant une complicité, c'est plus que les compositeurs. Pour moi, Ennio, en certains moments, tu sais que j'aime pas du tout les mots dans les films, j'espère toujours de faire un film muet, et la musique, ça va sostituer les mots. Et alors, on peut dire que maintenant, Morricone, c'est une de mes meilleures de registre scénariste.
Et ce n'est pas avec Sergio Leone hein, et Le Bon, La Brute et Le Truand, entre autres en 66, qu'Ennio Morricone obtient un Oscar. Il faut attendre 2007 et une statuette d'honneur. Et puis 2016 avec Les 8 salopards de Quentin Tarantino, ultime femme, fan du musicien, qui part aussi, Thomas, avec un lion d'or, plusieurs BAFTA, Golden Globes et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Une source d'inspiration constante, vient de réagir Jean-Michel Jarre. Sans lui, comme beaucoup d'autres musiciens, je ne serais pas là de la même façon.
Merci Anne Lamotte. Après un week-end de spéculation, est bien décidé à accélérer la cadence, manière de faire oublier la débâcle des municipales, mais aussi de s'attaquer aux crises post-coronavirus. Le nouveau couple exécutif devrait dévoiler dans la journée la composition du nouveau gouvernement. Alors, dès hier soir, l'ex-secrétaire général adjoint de l'Élysée, sous Nicolas Sarkozy, a donné le ton de ses priorités. Jean Castex a rendu une visite surprise à des policiers de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, pour souligner l'importance de la sécurité publique. Une visite, évidemment, très symbolique, en plein débat sur les violences policière et quelques jours seulement après la mise en examen de 4 agents pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle. Et puis la veille, l'ancien monsieur déconfinement avait réservé sa première sortie officielle à une entreprise de haute technologie afin de souligner cette fois-ci les 2 défis auxquels il entend répondre, la crise sanitaire d'une part et puis la reconstruction de l'économie d'autre part. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors ce soir, le nouveau chef du gouvernement a prévu de se recevoir à Matignon l'ensemble des parlementaires de la majorité. Signe peut-être, Rosalie, que contrairement à son prédécesseur Édouard Philippe, lequel rechignait à s'en occuper, le nouveau locataire de Matignon entend lui assumer totalement sa casquette de patron de la majorité présidentielle.
Le plus important, c'est ma relation avec la majorité parlementaire. Les mots de Jean Castex dans le JDD hier sonnent évidemment plutôt bien pour le député En Marche Bruno Ketel.
Ce sont des mots que je qualifierais, non pas d'encourageants, mais de sereins. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se mettre tous en rang, non pas disciplinés, mais motivés pour, derrière le Premier ministre et le gouvernement, exercer ces 2 ans de mandat dans un climat de sérénité et surtout de force collective.
Et rien que le fait de recevoir les parlementaires ce soir, ça va dans ce sens de plus de sérénité, souligne le porte-parole LREM à l'Assemblée, Hervé Berville.
C'est un signal tout à fait positif, à la fois pour les parlementaires, mais aussi pour le pays dans son ensemble, puisqu'il dit très bien que pour qu'on construise des solutions qui soient plus près des gens, pour qu'on ait cette proximité, eh bien, il faut le faire avec les parlementaires, et surtout, il faut faire en sorte eh bien, d'avoir une méthode peut-être plus inclusive et une méthode qui donne la part belle aussi au Parlement.
Mais le travail qui attend Jean Castex avec la majorité n'est pas des plus évidents. Les sensibilités sont diverses, et après la claque au municipal, les demandes de clarification sont nombreuses chez les marcheurs.
Je pense qu'on a un ADN à retrouver.
Le député Patrick Vignal refuse de s'emballer.
Ce n'est pas ce soir autour d'un verre qu'on va pouvoir échanger. Moi, j'attends de voir le fonctionnement. Nous ne sommes pas des députés godillots. Nous avons besoin de peser à la fois pour faire remonter les projets de nos territoires et à la fois pour exister.
Pour exister, la majorité attend aussi de savoir ce que veut mettre en place le Premier ministre et avec qui, et si la composition du gouvernement ne devrait plus tarder. La déclaration de politique générale de Jean Castex, elle, a déjà été repoussée après la prise de parole du président le 14 juillet.
Merci Rosalie Lafarge. Alors dans le petit jeu parfois cocasse du entrera, entrera pas, l'ex-ministre socialiste et ancienne candidate à la présidentielle, Ségolène Royal a assuré avoir été contactée. Idem pour la patronne des députés socialistes, Valérie Rabault, laquelle a aussitôt prévenu que sa réponse était non, avant de préciser un débauchage ne constitue pas une politique et si des socialistes entraient au gouvernement, ils s'inscriraient en dehors du parti. Quant au vice-président des Républicains, Gilles Platret, il a lui aussi appelé à dire non à toute proposition pour, je cite, ne pas se renier. C'est un rapport au vitriol destiné au ministère de l'Intérieur, mais révélé hier par nos confrères du Parisien. Ce document non finalisé, rédigé par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, dresse un constat cinglant de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, accusé d'en avoir confié le pilotage au seul ministère de la Santé. L'occasion, en réalité, d'alimenter des tensions de longue date entre les pompiers, d'un côté, qui dépendent de l'Intérieur, et puis les services de santé de l'autre, notamment sur la façon de gérer les appels d'urgence, ainsi que le secours et le transport des malades. Alors aussitôt, le président de SAMU Urgence, François Braun, lequel doit d'ailleurs être entendu aujourd'hui par la commission d'enquête parlementaire, a dénoncé, je cite, un pamphlet compilant de fausses informations et qui témoignerait, selon lui, de la grande frustration des sapeurs-pompiers. Alors cette synthèse épingle notamment les centaines d'évacuations de patients en TGV visant à désengorger les hôpitaux, une véritable esbroufe selon la Fédération de pompiers. Je vous propose d'écouter la réaction du professeur Jonathan Freund, urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, joué en téléphone par Wafia Kenich.
Qui nécessitait des soins très lourds, n'aurait pas pu avoir accès potentiellement à des places de réanimation s'il n'y avait pas eu ces transferts. Ça s'est joué à pas grand-chose et donc ces dizaines de transports ont vraiment permis de sauver des malades.
Ce qui est reproché notamment, c'est le fait de ne pas avoir transféré ces patients dans les cliniques à proximité des hôpitaux. Qu'en pensez-vous dans des cliniques privées ?
C'est absurde parce que déjà les cliniques privées ont été déjà bien mises à contribution et ont elles aussi beaucoup aidé à la prise en charge des malades graves. Ensuite, il faut savoir ce que c'est. Certaines cliniques privées qui, soi-disant, étaient disponibles n'ont pas du tout de matériel de réanimation. La plupart ont un matériel d'anesthésie, n'ont pas beaucoup de réanimateurs ou surtout d'infirmiers formés à la réanimation. Enfin, c'est pas rien. On peut pas juste dire, tiens, il y a un hôpital privé, une clinique ici, et paf, elle va devenir une réanimation performante. Alors là où ça a été possible, ça a été fait, mais on ne pouvait pas, à l'infini, créer des réanimations ex nihilo en quelques jours dans toutes les cliniques privées d'Île-de-France. C'est un règlement de compte, c'est une guerre qui dure depuis des dizaines d'années, au moins une dizaine d'années, entre les sapeurs-pompiers et la médecine d'urgence, pour résumer. Dans la grande majorité des cas, ça se passe très très bien entre SAMU Urgence et les pompiers, donc certaines personnes profitent d'une crise pour régler leur compte et essayer d'enfoncer les médecins et la médecine d'urgence en particulier.
Voilà, Jonathan Freund, urgentiste à la Pitié-Salpêtrière, joué en téléphone par Wafia Kenich. Des hôpitaux au bord de la saturation et des élus qui tirent la sonnette d'alarme. La flambée de cas de coronavirus se poursuit sans trêve aux États-Unis, qui enregistrent depuis plus d'une semaine des nombres d'infections records, ce qui n'empêche pas d'ailleurs le président Donald Trump de continuer de minimiser la crise dont il assure qu'elle est sur le point de s'achever. La tendance demeure également inquiétante dans plusieurs pays d'Amérique latine, en particulier au Chili. Le pays a annoncé hier avoir franchi le seuil des 10 000 morts. Le Brésil frise, lui, les 65 000 décès, tandis que le Mexique est devenu ce week-end le cinquième pays le plus endeuillé au monde. Et puis de son côté, l'Inde a dépassé la Russie concernant le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus et est devenu ce lundi le troisième pays au monde le plus touché derrière les États-Unis et le Brésil. Là-bas, le virus continue donc à se répandre rapidement et voilà qu'il touche désormais des régions jusqu'à présent épargnées, comme par exemple le Kerala. Cet état du sud-ouest du pays a ainsi imposé à partir de ce matin un nouveau confinement total de sa capitale. C'est une correspondance de Sébastien Farsi.
Les rideaux en fer des magasins sont tirés, les policiers arrêtent tout véhicule qui circule. La capitale du Kerala, Trivandrum, vit un nouveau confinement extrême et la plupart des routes de la ville, les bureaux et commerces vont rester fermés pendant une semaine. Cet état méridional, qui bénéficie d'un système de santé publique très performant, a réussi jusqu'à présent à éviter une large contagion. Mais les infections ont augmenté de plus de 10% en 24 heures, à des niveaux encore bas, mais inquiétants car les autorités n'arrivent plus à tracer leurs origines. Le gouvernement du Kerala a ainsi renforcé les interdictions de rassemblement et multiplié par 5 l'amende pour toute personne qui ne porte pas de masque en public. Celle-ci est portée à 120 euros. Ces mesures devraient se maintenir encore pendant un an, préviennent les autorités. D'autres états épargnés du sud de l'Inde font face à une nouvelle augmentation de cas, comme le Karnataka. Dans sa capitale, Bangalore, les hôpitaux sont surchargés et refusent parfois des patients. Certains sont morts en attendant un lit.
En Croatie, le scrutin qui s'est déroulé à l'ombre d'une résurgence de la pandémie était annoncé comme extrêmement serré. Et pourtant, hier, le Premier ministre a réussi son pari de convaincre les électeurs de rester fidèles à un parti qui domine la vie politique depuis près de 30 ans. Les conservateurs ont très nettement distancé leurs principaux rivaux de la coalition de centre-gauche. Une victoire qui intervient curieusement. Alors même que les quatre dernières années au pouvoir ont été marquées par de nombreux scandales. Pas moins de 9 ministres ont dû quitter le gouvernement pour des faits de corruption, sauf Marie-Pierre Vérot, que le Premier ministre aura habilement su détourner l'attention en mettant l'accent sur sa bonne gestion de l'épidémie.
C'est d'ailleurs pour profiter de résultats encore satisfaisants sur le front de la pandémie, malgré une résurgence du nombre de cas ces deux dernières semaines, que le gouvernement avait avancé la date des élections, initialement prévue en octobre. Beaucoup prédisent en effet une rentrée difficile, à la fois sur le plan sanitaire en cas de deuxième vague, et sur le plan économique et social. La Croatie est en effet fortement dépendante du tourisme. L'été qui s'annonce risque bien de ne pas remplir les caisses, et l'économie pourrait se contracter de quelques 10% cette année, un plongeon comme le pays n'en a pas connu depuis des décennies. Dans une période tourmentée et incertaine, les électeurs ont donc choisi la stabilité, c'est ce que leur demandait le Premier ministre. Cet ancien diplomate, europhile, a mis en garde lors de la campagne contre l'aventurisme qui aurait pu tenter les quelques 20% d'électeurs qui avaient donné leur voix à un chanteur populiste et nationaliste lors de la présidentielle du début de l'année. Le mouvement patriotique du chanteur aura tout de même 16 élus, mais le HDZ conservateur, qui devrait rafler près de 70 des 151 sièges, n'aura pas forcément besoin de le courtiser pour former une majorité. Avec une quarantaine de députés, la gauche social-démocrate, elle fait piètre figure, un désaveu sans doute de son leader, peu charismatique, victime aussi peut-être de l'alliance de petits partis de gauche et écolo.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi avec partout de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia à 18h. Vous avez rendez-vous avec Isabelle Souquet pour le prochain journal de la rédaction.